Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Bartas pour ce nouveau numéro d'Antidote, le sixième je crois, Aurélien vient de me dire. Si aujourd'hui beaucoup de personnes sont prêtes à concéder que la modernité a ses défauts, Dubuin met-elle à son crédit un certain nombre de progrès incontestables, comme la scolarisation généralisée, les systèmes de santé et l'égalité entre les sexes. Ainsi s'exprime Olivier Rey dans un ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans Marque-Page et qui a le titre de « Une question de taille ». Eh bien, c'est justement ces trois progrès incontestables, donc je rappelle la scolarisation généralisée, les systèmes de santé et l'égalité entre les sexes, que je vous propose de contester, ou au moins de mettre en discussion. Alors justement que ce sont des sujets sur lesquels il est très difficile de discuter sur le fond, puisqu'ils sont considérés justement comme des vérités indiscutables. Alors dans le prochain numéro d'Antidote, je vous parlerai de l'école, ou plutôt du système scolaire. Je garde pour le troisième numéro le sujet peut-être le plus épineux, le sujet de l'égalité entre les sexes, certainement de ces trois progrès le plus difficile à contester aujourd'hui. Mais pour cette chronique, aujourd'hui, je voudrais vous parler du système médical. Je me suis appuyée pour réfléchir à cette question du système médical sur un ouvrage incontournable qui date de 1975 mais qui n'a pas pris une ride, malheureusement. Je veux parler du livre d'Ivan Illich qui a pour titre « Némésis médical » et pour sous-titre « L'expropriation de la santé ». Alors comme d'habitude pour commencer, un petit mot de l'auteur, qui est connu dans certains milieux, mais pas forcément très très connu non plus. Ivan Illich, il est né en 1926 à Vienne. Il a connu plusieurs exils dans sa jeunesse, liés à la montée de l'antisémitisme et du nazisme. Il a fait des études d'histoire, de philosophie et de théologie, et il a décidé de se tourner vers la prêtrise. Donc il est devenu prêtre de l'Église catholique. Il va pratiquer sa prêtrise en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et ses rapports avec les communautés indiennes vont être fondamentaux dans l'évolution de son parcours. En 1961, il crée à Cuernavaca, au Mexique, le Centre interculturel de documentation. C'est en fait une université alternative, sans examen ni diplôme, et entièrement autofinancée, qui deviendra un foyer de réflexion et de critique de la société contemporaine, où se croiseront tout au long des années 60 et 70 de très nombreux intellectuels et militants gauchistes. Cette université a fermé ses portes en 1976, après quoi Illich s'est transformé, selon sa propre expression, en philosophe itinérant. Il est mort en 2002 des suites d'un cancer qu'il avait refusé de soigner et avec lequel il a vécu pendant 20 ans, fidèle à sa critique du système médical, comme nous allons le voir. Rejeté unanimement par la droite, qu'elle soit gestionnaire ou intellectuelle, qui ne voyait en lui qu'un contestataire parmi tant d'autres, ses nombreux lecteurs dans les années 70, l'époque où il a eu le plus de succès, on va dire, se recrutaient à gauche et à l'extrême gauche. Cependant, dès le début des années 80, beaucoup de ses lecteurs se sont détournés d'Illich. En effet, sa préférence pour une autonomie authentique des personnes allait à rebrousse-poil par rapport à l'assujettissement à un État-providence revendiqué par la gauche. Il a connu alors une longue traversée du désert et ne fut redécouvert qu'au début des années 2000. Ses œuvres complètes furent publiées en 2005 chez Fayard, l'année de sa mort. Voilà pour Ivan Illich, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, bien évidemment. C'est un auteur inclassable, hein, comme on vient de le voir, et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Illich sur le système médical dans son ouvrage. Eh bien, je vais lire les premières pages, quelques petits morceaux de l'introduction. Ça vous donnera un petit peu idée du contenu de l'ouvrage. L'entreprise médicale menace la santé. La colonisation médicale de la vie quotidienne aliène les moyens de soins. Le monopole professionnel sur le savoir scientifique empêche son partage. Déjà, en trois phrases, presque tout est dit. Une structure sociale et politique destructrice trouve son alibi dans le pouvoir de combler ses victimes par des thérapies qu'elles ont appris à désirer. Le consommateur de soins devient impuissant à se guérir ou à guérir ses proches. Donc, perte d'autonomie, on va y revenir. Les partis de droite et de gauche rivalisent de zèle dans cette médicalisation de la vie. Et un petit peu plus loin, il nous dit « La médicalisation de la vie est malsaine pour trois raisons. Au-delà d'un certain niveau, l'intervention technique sur l'organisme ôte au patient les caractéristiques du vivant qu'on désigne communément par le mot de santé. » Là, c'est le premier point. Deuxièmement, l'organisation nécessaire pour soutenir cette intervention devient le masque sanitaire d'une société destructrice. Et finalement, la prise en charge de l'individu par l'appareil biomédical du système industriel ôte aux citoyens tout pouvoir de maîtriser politiquement ce système. La médecine devient un atelier de réparation et d'entretien destiné à maintenir en état de fonctionnement l'homme usé par une production inhumaine. C'est lui qui doit réclamer la consommation médicale pour pouvoir continuer à se faire exploiter. Voilà déjà dans l'introduction, beaucoup de choses sont dites. Alors comme on le voit, l'idée centrale d'Illich est que la prolifération et le renchérissement des services médicaux, en deux mots, la médicalisation de la société, de la vie et de la société, nuisent à la prise en compte autonome de sa propre santé par chaque individu. Il concède bien sûr que, lors d'un premier palier de développement, la médecine a eu des résultats sur la disparition de certaines maladies, sur la morbidité, sur l'allongement de durée de vie. Bien qu'il insiste sur le fait que l'amélioration de l'alimentation, de l'habitat et de l'hygiène ont une part plus importante dans cette évolution que les progrès médicaux. Mais il nous dit que passé un premier palier, un certain niveau en fait, il arrive un moment où la surmédicalisation de la population devient elle-même pathogène et créatrice de maladies ou au moins d'états de mal-être. Cette surmédicalisation, elle passe par la transformation de l'individu en malade ou patient potentiel. Tout le monde doit se retrouver dans l'idée qu'il est un patient potentiel. On a ainsi médicalisé chaque période de la vie, en définissant pour chacune d'elles les risques potentiels dont il faudrait se prémunir. Alors, bien sûr, on a médicalisé la naissance, depuis longtemps, la grossesse d'abord, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la vieillesse, la ménopause, l'avant-vieillesse, la pré-vieillesse, le troisième âge, le quinzième âge, enfin voilà, tous les âges ont des potentiels, des risques donc, contre lesquels il faut se prémunir, et même la mort. On a aussi créé des normes de bonne santé auxquelles chacun est prié de se plier et s'il n'est pas dans la norme, il devra se soumettre à un traitement médical. Alors, comme norme, on peut noter par exemple la tension artérielle, la manie qu'on a eue dans tous les examens médicaux aujourd'hui de prendre la tension artérielle. Voilà, donc il y a une norme de tension artérielle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on sait que même les personnes chez elles se prennent la tension. Voilà, c'est devenu une norme. On a aussi les normes, par exemple, par rapport aux enfants, sur la croissance des enfants. Il y a des courbes qu'il faut respecter. Tout ça, ce sont des normes qui ont été créées par le système médical et qui permettent à chacun de voir s'il est bien dans la norme et donc s'il doit se faire soigner ou non. Et dans tous les cas, ça l'incite à se faire suivre. Alors, il nous parle beaucoup, bien sûr, de cette perte d'autonomie. On va y revenir. Et il insiste aussi sur le fait que cette médicalisation, donc de la société et de tous les âges de la vie, porte essentiellement préjudice aux plus fragiles, aux plus démunis. Parce que d'un côté, ils se voient dépossédés de leurs connaissances de base, des connaissances d'hygiène, des connaissances médicales, qui étaient héritées souvent dans des communautés. Donc, ils se voient dépossédés de ces connaissances. Et en même temps, ils n'ont souvent pas accès, ou un accès très difficile, aux services médicaux. Donc, de fait, ça creuse les inégalités. Cette médicalisation de la société génère aussi des comportements hypochondriaques. C'est-à-dire que tout le monde se pense peut-être malade. Il faut bien voir que tout ça fait fonctionner un système de services, et un système, on va dire, commercial, même quand il s'agit de services publics, puisque tout ça crée des échanges d'argent, des échanges de... Voilà, et bien sûr, de la croissance. Illich y dénonce aussi, et c'est lié bien sûr, la professionnalisation de la médecine, qui crée une classe, même une caste, il appelle ça une caste, de détenteurs du savoir, avec son jargon, ses normes, etc., qui transforme l'individu en un patient passif par définition. Il suffit d'avoir fait un petit tour à l'hôpital pour comprendre ce type de choses. Et cette caste qui fait obstacle aux capacités autonomes de guérison, lesquelles sont d'ailleurs systématiquement dévalorisées. Il fait référence ici notamment à toutes les anciennes formes de médecine qui ont été dénigrées, voire diabolisées par les professionnels de la médecine. C'est vrai qu'il a beaucoup vu ça dans les communautés indiennes, mais on pourrait en dire autant dans nos cultures. Alors souvent, aujourd'hui, 40 ans après, ces médecines sont réapparues, sauf qu'elles réapparaissent sur le marché médical, donc bien sûr avec des échanges commerciaux, et qu'elles réapparaissent avec toujours la mise en place de normes, donc de diplômes, etc. Et donc l'autonomie, en fait, à travers ces pratiques médicales, s'est perdue et est récupérée aujourd'hui par des professionnels. Il nous dit que la mainmise du médecin sur le langage de ceux qui souffrent est devenue le rempart des privilèges de la profession médicale. Bien entendu, quand on parle un jargon que personne ne comprend, eh bien ça protège. Voilà, alors c'est un ouvrage bien sûr très, très dense, même s'il n'est pas très long. Il fait, 250 pages à peu près, en poche. Voilà, 200 pages en poche. Mais très dense, il est bien sûr impossible de le résumer. Il y a notamment dans cet ouvrage des éléments de réflexion très intéressants sur nos limites, sur la mort, sur la douleur, par exemple. Voilà, tout ça est très intéressant. Pour terminer, peut-être quelques extraits alors du dernier chapitre, on va dire de la conclusion de l'ouvrage. Mais avant ça, une petite explication sur le titre que je ne vous ai pas donné. Donc le titre, c'est Némésis médicale. Alors Némésis, c'est une déesse grecque. Et elle apparaît principalement comme vengeresse des crimes et celle qui punit Libris. Libris, c'est une notion que l'on peut traduire par démesure. Donc on comprend mieux. C'est donc la vengeance de la démesure de la médecine. Donc la vengeance qui fait qu'aujourd'hui, le système ne fonctionne plus. Je trouve le sous-titre plus parlant, c'est « Expropriation de la santé », donc ça dit bien ce que ça veut dire. Je vous lis quelques petits passages de la conclusion. Donc il nous parle justement de cette fameuse némésis médicale. Némésis médicale est plus que la somme de toutes les fautes professionnelles, des négligences, du cynisme de caste, de l'injuste répartition des soins décrétés par les médecins, de l'invalidité par diktat médical. C'est plus que la dégradation malsaine des structures sociales par la surmédicalisation tentaculaire. C'est plus même que l'encouragement médical de l'impuissance face à la douleur, la maladie et la mort. Némésis médical, c'est l'auto-déréglage institutionnel de l'homme vers le cauchemar. C'est l'expropriation du vouloir vivre de l'homme par un service d'entretien qui se charge de le maintenir en état de marche au bénéfice du système industriel. Voilà ce que dit cet ouvrage, que finalement le système avait quand même intérêt à avoir un capital, ce qu'on appelle le capital humain, en bon état de marche, et donc il a créé un système médical. Et aujourd'hui, c'est à chaque personne d'être responsable de sa santé pour pouvoir continuer à fonctionner, à être un des rouages de la société. Il nous dit également en conclusion, une seule démarche peut éveiller l'homme à la conscience de l'origine onirique des institutions productrices, de lâcheté, de vanité, de violence, d'envie, et à la fois l'engager dans la maîtrise des sources du mirage industriel. Cette démarche, c'est la lutte politique pour le droit à l'intensité de l'acte productif personnel. Cet acte productif personnel, il en parle beaucoup, Illich, sur d'autres sujets que la médecine. La lutte politique dans ce domaine, donc dans le domaine médical, pour la liberté de l'information, pour la liberté de l'exercice des soins et pour la libre disposition de son corps, pourra jouer le rôle d'étincelle, déclenchant un processus général de libération dans d'autres domaines où l'expansion du système hétéronome a également atteint des niveaux morbides. Voilà la conclusion de cet ouvrage donc d'Ivan Illich. Donc je vous le conseille vivement. D'autres ouvrages d'Ivan Illich, je vous dire quand même que ses œuvres complètes existent chez Fayard, donc on retrouve toutes ses œuvres. Une société sans école, on en parlera la prochaine fois. Le travail fantôme, le genre vernaculaire, on en parlera également. Énergie et équité, un ouvrage très, très connu. Le chômage créateur, voilà, beaucoup d'ouvrages d'Ivan Illich. Pour une approche d'Ivan Illich également, peut-être plus simple avant de rentrer dans ses ouvrages, vous avez l'ouvrage « Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques » dans lequel Yves Robert a fait un long article sur Ivan Illich qui est très intéressant. Et toujours un ouvrage que je vous ai déjà cité plusieurs fois, mais qui est vraiment incontournable, d'Olivier Rey, une question de taille, puisque Olivier Rey s'appuie beaucoup sur les écrits d'Ivan Illich pour sa démonstration sur la question de la taille et de l'échelle dans nos sociétés. Donc toujours pareil, cette critique de la démesure. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne lecture et puis je vous dis à la prochaine fois.